Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre quatrième rencontre autour de l'inconscient européen avec Ali Maghoudi, psychanalyste. L'inconscient européen, ce sont peut-être à la fois des spectres inconscients qui hantent l'Europe aujourd'hui et aussi la méthode pour les affronter, pour les aborder et donc une certaine pertinence en particulier peut-être de la psychanalyse. Ce soir, nous en parlons avec Ali Maghoudi, auteur en l'an 2000 avec Jérôme Monod d'un manifeste pour une Europe souveraine et cette année 2018 d'un livre important, N'ayons plus peur, enquête sur une épidémie contemporaine et les moyens d'y remédier. Bonsoir Ali Maghoudi.
Bonsoir Frédéric Vant.
Merci beaucoup d'être là ce soir pour discuter de ce terme, peut-être vague, mais qui recoupe beaucoup de vos travaux, qui nous sert de titre cette semaine sous la notion d'inconscient européen. Je ne sais pas ce qu'elle peut vous inspirer, comme ça, très librement.
Ce que ça m'inspire, c'est que s'il y a de l'inconscient en Europe, c'est parce qu'il y a des discours, c'est parce qu'il y a des langages, parce qu'il y a des paroles. Et dès qu'on est dans le langage de la parole, on met en jeu de l'inconscient. Et si cet inconscient existe, il est pluriel, dans la mesure où les discours sur l'Europe sont pluriels.
Ah, ça me frappe beaucoup ce que vous venez de dire, Ali Maghoudi, parce que dans votre livre que je viens de citer, « N'ayons plus peur », qui est paru au début de l'année 2018, et comme dans tous vos autres livres, vous avez écrit beaucoup de livres que je n'ai pas pu tous lire, mais je pense qu'il y a un enjeu majeur dans votre travail, qui est de lier l'inconscient individuel, disons, ce que vous appelez pour la peur les scénarios individuels de catastrophe, les scénarios phobiques individuels, et les discours collectifs. Alors vous avez fait des portraits psychanalytiques d'états, d'individus, et en même temps, évidemment, des diagnostics de la situation contemporaine. Et ce que vous venez de dire sur la parole me rappelle le titre de la section par laquelle je voulais commencer, la section 21 de votre livre « N'ayons plus peur », je le cite, « où est relaté un exemple de peur individuelle induite par la nature méconnue d'un discours collectif ». Est-ce que c'est de cela que vous voulez parler quand vous dites le discours, la parole, c'est l'inconscient ?
Oui, Frédéric Worms, c'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on est protégé des peurs, la peur, ça fait partie de la vie humaine. Si on est protégé des peurs individuellement, c'est parce qu'il y a des discours collectifs qui nous protègent des peurs, qui les provoquent et qui en même temps les protègent. Le premier phobique de l'humanité, c'est Adam.
Adam dans la Bible.
Adam dans la Bible. Un jour, il est au paradis, il frissonne, il a peur parce qu'il vient de transgresser la règle. Il vient de croquer la pomme, alors que c'était interdit. Donc, on a une figuration métaphorique d'un interdit majeur qui est transgressé et qui provoque de la peur. S'il n'y avait pas ces interdits collectifs, le vol, le meurtre, l'inceste, il n'y aurait aucune raison qu'il y ait une quelconque tentation de transgression et une quelconque risque de la peur. Mais donc, il est une culture occidentale, européenne, que sais-je, une culture, c'est un espace de parole collective qui protège la peur et qui l'induit.
Oui, c'est ça le paradoxe, Ali Maghoudi, parce que quand vous parlez de la religion dans votre livre, où elle a une place très importante, elle a ce double visage. D'un côté, comme vous venez de le rappeler, elle peut induire des peurs qui traversent l'histoire, des peurs collectives, façonner nos peurs collectives et individuelles, mais en même temps, vous dites aussi très souvent, très fortement, que les peurs contemporaines dans l'Europe d'aujourd'hui viennent aussi de l'effondrement du discours religieux, qui en même temps qu'il suscite certaines peurs, finalement, il répond, et il répondait, et en tout cas, les peurs collectives étaient cadrées, canalisées vers ces structures peut-être du péché et d'autres, et qu'aujourd'hui, l'effondrement de ces discours, l'effondrement peut-être partiel, qui explique aussi leur retour plus angoissant qu'avant encore, en fait, a laissé la place à des peurs sans contrôle, des peurs sans sujet, des peurs sans auteur. Ce discours sur un collectif sans sujet qu'on trouve sur Internet aussi, vous dites qu'il a pris la place des grands discours qui canalisaient les peurs.
Pourquoi les religions sont-elles essentielles dans le discours collectif ? C'est que ce sont les seuls appareils intellectuels, logiques, qui permettent de fixer une origine au monde. les calendriers, les airs.
Il n'y a pas d'autre. Ça structure symboliquement toute notre vie, finalement.
Qui structure votre date de naissance, l'inscription dans un collectif. Mm-hmm. Il n'y a pas d'autres entités que les entités religieuses pour penser l'origine du monde. Il y a bien le Big Bang scientifique, mais il ne fait pas calendrier.
Alors on ne peut pas dire qu'on est à Big Bang plus tant d'années, effectivement.
Non, on
est en l'an, quelques milliards d'années,
quelque chose. C'est quand même une énigme. Pourquoi n'y a-t-il pas de calendrier laïque?
Oui, vous racontez une conférence que vous faites à Jérusalem sur ce thème, et dont vous dites qu'il vient toucher à un point du théologico, je vais dire politique, majeur.
Oui, parce que les textes sacrés, ils sont sacrés parce qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire le commentaire du commentaire de la Bible, mais on n'a pas le droit de toucher au dogme originaire. Le dogme originaire permettant de fonder et de diviser aux origines. Mm-hmm. Fonder la loi, diviser, c'est-à-dire faire en sorte que la loi et la transgression de la loi, ça ne soit pas la même chose.
Mais si on revient, Ali Magoudi, à la structuration des peurs collectives et individuelles, la manière dont les deux se combinent finalement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les sujets européens, pour revenir sur cette question, n'arrivent plus à se brancher sur un discours collectif suffisamment structuré pour maîtriser leurs peurs, que cette symbolique générale est en train de faillir ou de défaillir?
L'Europe démocratique, occidentale, mmh. a été bouleversée par une révolution conceptuelle de 1789, promue par la France, qui s'appelle la laïcité.
La laïcité, oui.
La laïcité, c'est pas tout ce qu'on peut raconter, la laïcité, c'est le troc peuple souverain contre Dieu. Les lois ne sont plus fondées au nom
d'une transcendance,
d'une transcendance quelconque, c'est le peuple souverain qui vient à la place de la transcendance. Il y a eu, entre 1789 et aujourd'hui, il y a eu le discours marxiste qui a pris une place considérable pour dire que le paradis existait, qu'il était sur Terre, et que la classe ouvrière pouvait y prétendre, c'est-à-dire la majorité des gens. Ce discours collectif porte de moins en moins de personnes. La laïcité a été réduite au taquet. Et en échange, on aurait pu croire, comme disait Malraux, que la religion allait venir prendre la place, mmh. laissée vacante par le discours laïque et l'effondrement des grands discours utopistes. Pas du tout. C'est l'empire des peurs qui a pris la place de ces discours. L'empire des peurs, la peur du sida, la peur de la fin du monde, la peur du glucide, la peur du gluten, la peur, la multitude des peurs qui envahit le monde.
Donc vous pensez que finalement, l'un des soubassements de nos peurs d'aujourd'hui, de ce qu'on pourrait quand même appeler l'inconscient européen, c'est la laïcité, ou en tout cas, le fait qu'on n'a pas mesuré ses conséquences psychiques, individuelles et collectives. C'est-à-dire le fait d'avoir perdu ses repères, qui manifestent un certain courage de l'humanité aussi, une certaine volonté d'affronter les dangers. Finalement, tant qu'il reste inconscient, laisse la place vide pour parler de la peur.
Je pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout de l'énonciation, de l'énoncé, de ce que la Révolution française a produit. La Révolution française a produit un discours collectif disant que la place de l'origine était vide, qu'elle n'était pas incarnée par quoi que ce soit, un dieu. Elle est vide, cette place. Et c'est parce qu'elle est vide qu'elle permet l'organisation dans l'espace politique qu'elle gère, la coexistence pacifique de discours pluriels qui disent le contraire en disant non, non, elle n'est pas vide, elle est occupée par mon Dieu à moi. Et de ne pas parler explicitement de cette contradiction fait que on ne sait plus où on en est. Quand j'étais enfant, mes parents... J'ai un père qui est musulman, j'ai une mère qui est catholique, polonaise.
Tout ça, c'est votre scénario individuel.
C'est mon scénario individuel.
Et c'est le point d'ailleurs important que vous soulignez toujours. Vous liez le scénario individuel et l'histoire collective.
Toujours. Ce scénario individuel, c'était mon père disait à ma mère, mais Ali, écoute ta mère, comment peut-elle dire que Dieu a un fils? Si Dieu est Dieu, il ne peut pas avoir de fils, il est tout puissant. Donc c'était des querelles dogmatiques de cuisine, mais elles illustrent le fait que si je n'étais pas né dans un espace politique où la question peut rester vide, j'aurais été plutôt schizophrène.
Mais alors justement, Ali Magoudi, qu'est-ce qui est le pire d'une certaine façon? C'est la laïcité vous a quand même permis d'avoir plusieurs espaces. Vous-même, dans votre scénario individuel, vous avez agencé quelque chose comme « je suis un citoyen français » et puis par ailleurs, j'ai deux discours religieux qui structurent différemment le monde symbolique et vous avez, si j'ose dire, construit votre rapport au monde à travers ces trois scénarios, finalement.
Oui, mais s'il n'y avait pas eu la laïcité, les deux premiers scénario était incompatible.
Il se serait entré, peut-être même que de tels mariages n'auraient
pas pu avoir
pas
lieu.
Pu avoir lieu.
Tout simplement. Il y a plein d'endroits dans le monde où logiquement ils ne peuvent pas avoir lieu.
Ça rejoint finalement une version heureuse de la citoyenneté contemporaine, les scénarios que vous décrivez, Ali Magoudi.
Oui, mais je pense qu'il était d'autant plus possible que je suis né au moment des grandes utopies...
Juste après la Seconde Guerre mondiale.
Matérialistes qui aujourd'hui, justement, font quand même un peu défaut. Ce qui manque aujourd'hui, c'est justement un discours qui laïque, qui pourrait dire la liberté religieuse, c'est l'acceptation du fait que l'autre, quand il dit « Dieu a un fils », profère un blasphème. Et que c'est ce droit au blasphème qui fait la laïcité.
C'est-à-dire la religion de l'un est un blasphème pour la religion de l'autre, mais dans la laïcité, tout ça peut s'articuler.
Ça peut agacer les gencives, mais c'est le prix à payer pour avoir une paix civile.
Mais alors, Ali Magoudi, il y a un autre passage qui m'a frappé dans les deux derniers chapitres de votre livre, qui arrive à ces questions, finalement, vers la fin, qui part aussi du terrorisme. Hein. C'est un livre écrit sous le spectre aussi du terrorisme et de ses sources inconsciente finalement, et aussi des sources de peur qu'il induit. Justement sur la laïcité, vous dites que la laïcité ouvre un espace intermédiaire, mais en même temps qu'elle peut elle-même engendrer des terreurs, quand justement on veut être un pur citoyen sans origine. Finalement, ce que vous venez de raconter de vous-même, la manière dont vous articulez plusieurs scénarios dans votre propre histoire individuelle, ça vient compléter la laïcité toute seule, pour vous, serait plutôt un scénario impossible, un scénario qui effraie et souvent qui vient rejoindre des peurs individuelles cachées.
La plus grande surprise de ma vie, ça a été un jour quand je suis allé écouter une pièce de théâtre qui était l'Évangile selon saint Marc. Donc cet évangile, je ne l'avais jamais lu, je n'avais jamais mis les pieds dans une église, toutes les écoles que j'ai fréquentées jusqu'à l'université étaient des écoles laïques. Et j'écoute ce texte,
oui.
Et surprise, je le connais par cœur.
C'est ça.
Alors je me dis, voilà le lieu de l'autre qui parle. Le lieu de l'autre qui parle, c'est-à-dire que sans qu'on ne m'ait enseigné quoi que ce soit, la langue a traversé mon esprit, l'a structuré et a fait que, eh bien, en effet, si on me dit que Dieu a un fils et que les deux natures de ce fils sont divines et humaines, sans séparation, sans confusion, c'est une logique qui ne m'est pas étrangère parce que je parle français.
Donc ça, pour vous, Ali Magoudi, est-ce que ça, c'est le discours, l'un des discours religieux que vous avez reçu dans votre famille, du côté maternel, ou est-ce que c'est... Pour vous, il y a une trace de ce discours chrétien dans la laïcité française elle-même, dans la République.
Ce sont des traces qui sont dans la République. À partir du moment où on parle français, on parle catholique.
Ça, pour vous, c'est une des traces de la religion dans l'inconscient collectif français.
C'est pas le seul, mais il existe. Et il est indéracinable.
Mais il y a un autre effet que vous étudiez, c'est dans ce discours collectif laïque, alors il y a cet inconscient d'une certaine religion qui fait partie de la même histoire finalement, mais il y a aussi l'effet du discours laïque comme tel. Vous évoquez un cas qui est très frappant, et c'est d'ailleurs au début du chapitre 21, d'un patient que vous recevez un jour de 2014. Clément, que je reçois un jour de 2014 dans mon cabinet, est un jeune homme de taille moyenne, etc. Et vous écrivez que ce jeune garçon avait inconsciemment peur d'être noir, d'être dans l'espace public avec sa différence visible, comme on dit aujourd'hui, parce que précisément le discours républicain qui le protège contre cette peur l'aggrave aussi, puisqu'il est censé être un pur citoyen, et en même temps, du coup, il est dans le déni de son scénario individuel, et la laïcité produit ce surcroît de peur, d'après vous.
Oui, mais ce surcroît de peur, dans le cas de Clément, c'était que le discours républicain continue à charrier des visions négatives de la négritude. Mmh. Les clichés qui ont soutenu la légitimité de l'esclavagisme persistent dans le discours collectif. Il n'a pas été évacué par l'abolition de l'esclavage, la décolonisation. Mmh. Il est toujours là. Et comment s'en protéger ?
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser.
Ah ben, je pense qu'on... Alors, le paradoxe, là encore, c'est qu'on ne peut s'en protéger que par la possibilité d'être dans une communauté qui puisse faire pendant, obstacle et contrepoids à ce qui reste comme résidu raciste dans le discours collectif.
Qu'est-ce que vous appelez communauté ?
C'est-à-dire une communauté d'Antillais, une communauté de... Ce jeune homme avait des parents en France, comme en Afrique, qu'il ne voyait pas régulièrement. Et il avait obéi au discours de la République laïque, du citoyen universel, sans origine.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, Ali Magoudi, que la communauté ? Vous-même, d'ailleurs, à la fin de ce chapitre, vous dites qu'il y a aussi un risque dans cette défense par le groupe. Vous dites, pour se défendre des stéréotypes racistes qui circulent dans le discours commun, il est nécessaire de disposer d'une parole portée par un groupe, à même d'invalider les propos débiles qui s'y logent. Comment alors, constitué par un groupe minoritaire, ne pas verser dans un communautarisme qui vous transforme en victime professionnelle ? Est-ce que la réponse à votre propre question, ça n'est pas quand même de revendiquer ces scénarios complexes, de dire je suis à la fois citoyen et noir, et je porte la mémoire de cette violence, et j'assume un peu les deux, je ne peux pas être dans le déni qui...
Mais justement, le patient dont je parlais était dans le déni.
Voilà.
Et il y a certains discours républicains et laïcs qui dénient la singularité.
Mais alors la réponse, c'est la communauté ou c'est la revendication ?
C'est la communauté et la revendication du sujet universel républicain et laïque. C'est les deux à la fois, sans renier quoi que ce soit.
Mais pourquoi, pardon de creuser un petit peu, Ali Magoudi, puisqu'on est au cœur d'un problème très important pour l'inconscient français européen d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que la revendication passerait nécessairement par la communauté ? Est-ce qu'on ne peut pas revendiquer justement un scénario individuel, son histoire individuelle, autant que le scénario républicain, mais sans forcément passer par la case groupe, la case communauté ?
La case communauté ne fait aucun problème quand il s'agit de citoyens français catholiques. Personne n'y voit quoi que ce soit à redire. On y voit quelque chose à redire quand ce ne sait, quand on n'est pas dans la vision pure, ethniquement pure, du français de souche.
Donc il faut assumer cette...
Il faut assumer le fait qu'il y a de la communauté. Ce qui est intéressant, dès qu'on est un peu européen et qu'on voyage un tout petit peu, c'est qu'on est tout de suite blessé, entre guillemets, par le fait que dès qu'on va à l'étranger, on est à l'étranger, en Europe. Mmh. Quand on est chez les Allemands, ils ont leurs particularités, où ils sont catholiques, où ils sont protestants, où ils payent des impôts pour le culte. Enfin, on est très choqué par ce qu'ils sont. Et pourtant, ça nous gêne pas qu'ils soient aussi européens. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est de supporter les contradictions et la multiplicité des discours qui nous traversent. Mmh. On est traversé quand on parle français par le discours religieux catholique, on est traversé par le discours républicain et laïque, on est transporté par différentes choses, ça ne gêne personne. Par contre, on va demander très spécifiquement aux populations qui viennent des anciennes colonies françaises de gommer l'histoire de ces colonies.
Alors peut-être que le mot qui me gênait à Limagoudi, en vous écoutant, je m'en aperçois, peut-être que c'était le mot communauté. Est-ce que c'est pas plutôt l'idée de, effectivement, d'appartenir à un collectif, à une histoire collective qui est portée par ses relations avec les autres et qu'il faut assumer dans toutes ces tensions pour se délivrer des peurs qui sinon, en effet, deviennent mortifères d'ailleurs, hein, qui deviennent pathologiques.
Quand j'étais enfant, l'ensemble des gens de mon quartier, j'habitais dans le 3e arrondissement à Paris, qui étaient mes amis, étaient tous juifs. À l'époque, ils ne faisaient pas communauté. Dans les années 50-60, ils ne faisaient pas communauté. Ils ont commencé à faire communauté à partir du moment où, après la fin de la guerre d'Algérie, les juifs d'Afrique du Nord sont arrivés en France, se sont retrouvés une fois de plus dans l'exil et le juif errant, et ils ont fait beaucoup plus communauté qu'ils ne l'avaient fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, qui est-ce qui dit il y a un problème parce que il y a une communauté de gens qui se revendiquent du judaïsme? Personne.
Sauf les antisémites, probablement.
Sauf les antisémites. Mais personne. Ça ne fait problème à personne. Donc, alors, appelez ça comme vous voulez. Communauté, groupe, association. Mais en tous les cas, il y a...
Mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître d'une histoire collective sans vouloir appartenir justement à cette
communauté. Grand bien leur fasse. Mais faire partie d'une communauté, ça aide beaucoup, quand on est juif, à combattre l'antisémitisme.
C'est sûrement l'un des moyens, mais c'est un moyen que je trouve un peu normatif, finalement, si on en fait la seule solution. Parce que dans votre propre livre, vous évoquez plusieurs solutions, plutôt.
Frédéric Worms, n'entendez pas que c'est pour moi la seule solution. Je dis simplement que pour ce garçon, ce qui est la seule solution inenvisageable.
Je comprends. Il était fermé, barré par le discours.
Il était fermé, barré, et donc là, la peur envahissait son champ quotidien de s'exposer dans l'espace public.
Alors Ali Magoudi, on va revenir dans la deuxième partie de cette discussion sur votre approche des peurs contemporaines en Europe, sur comment elle se relie à tout votre travail, à la fois biographique sur votre père, sur certains hommes politiques, sur l'Europe, comment se constitue cette besoin d'Europe aujourd'hui pour répondre aux peurs contemporaines. Mais d'abord, on va entendre le morceau de musique que vous avez choisi pour jalonner cette conversation.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, toujours notre quatrième rencontre autour de l'inconscient européen, ce soir avec Ali Magoudi, psychanalyste, auteur notamment de N'ayons plus peur en 2018, d'un manifeste pour une Europe souveraine et de plusieurs autres livres, notamment de psychanalyste, d'hommes politiques européens. Mais Ali Magoudi, vous venez de nous entraîner par cette musique au cœur de l'Europe du XXe siècle, puisque nous venons d'entendre un morceau du quatuor numéro 8 d'accord de Dmitri Chostakovitch, dont vous me dites qu'il a été composé à Dresde après les bombardements et que finalement il porte la marque de la guerre.
J'ai choisi ce morceau parce qu'on sent l'angoisse monter, on sent que le morceau est composé à Dresde en 1960.
60, d'accord.
Mais à Dresde en 60, il reste plus grand-chose.
Hein. Les ruines sont encore
fumantes.
Encore fumantes, oui.
Cette musique parle beaucoup.
Elle parle, elle crie.
Elle crie.
Elle chante malgré tout encore. Oui. On y entend aussi un peu des rythmes, j'allais dire, russes. Une musique.
Dans le quatuor, il y a des morceaux klezmer.
Oui.
C'est toute la culture de Shostakovich qui passe en même temps dans la musique.
Alors, on retrouve ce lien, cette fois-ci dans une œuvre d'art que vous faites, à la fois en tant que psychanalyste, mais en tant que théoricien et en tant que sujet, j'allais dire, entre les grands discours collectifs, les grandes expériences historiques européennes et autres, et puis les sujets individuels. Une des marques de votre œuvre, c'est d'avoir écrit des livres sur des individus, des portraits psychanalytiques, en tout cas portrait total, vous les aviez appelés avec votre co-auteur Pierre Jouve, portrait de François Mitterrand, portrait de Jacques Chirac. Vous aviez aussi abordé le cas de Jean-Marie Le Pen, ce que vous rappelez dans N'ayons plus peur en particulier. Comment se noue, chez chaque sujet, comme on en a déjà parlé, chez un musicien, mais aussi chez un homme politique, ces scénarios individuels qui peuvent être liés à une expérience enfantine, à une peur de la mère éprouvée par les parents, et puis les grandes épreuves historiques, et notamment chez les hommes d'État. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous faites cette enquête?
Je cherche à interroger le discours de chacun de ces hommes politiques, en les interviewant, leur posant des questions, et en espérant qu'ils vont laisser passer des choses en dehors de la maîtrise. Mmh. Si on prend François Mitterrand était quelqu'un qui était obnubilé par la mort. Mmh. Et donc, il en avait peur, il n'en avait pas peur, je ne sais pas, mais en tous les cas, la seule chose dont on a peur, ce que je montre dans le livre,
ouais,
c'est de la mort. Et comment on combat la peur de la mort? Et François Mitterrand, regardez le nombre d'objets qu'il a laissés dans Paris, un arc de triomphe, une pyramide, enfin...
Donc pour lui, la réponse était par la monumentalité,
l'inscription
dans le territoire, dans l'espace
le
culturel.
Dans le temps, l'éternité, enfin, c'est un pharaon. Hmm. Bon. Il s'est pas fait momifier, mais les momies de François Mitterrand, le livre, la grande bibliothèque...
Enfin, les derniers mots, je serai avec vous...
Voilà. Donc, on voit que, par sa culture, il a répondu à son angoisse métaphysique et à la peur de la mort.
Alors, dans son cas, Ali Magoudi, est-ce que vous diriez que finalement, ce qu'il a emporté, c'est le scénario individuel, la peur individuelle de la mort, et que l'histoire était au service de ce scénario? Et dans d'autres cas, on a l'impression que les scénarios individuels débouchent sur les histoires politiques. Quand vous citez Jean-Marie Le Pen, vous dites qu'il veut transgresser pour montrer qu'il va maîtriser la peur de tout le monde.
Jean-Marie Le Pen a été marqué par le décès de son père en 1940 et quels. Son père est marin, il prend son bateau et pour aller pêcher, il revient pas. Voilà, donc ça c'est le grand traumatisme de Jean-Marie Le Pen. Il est orphelin de père assez tôt et il réécrit l'histoire de France comme une catastrophe sur le cadre national qui s'effondre et qui ne protège plus ses enfants.
Et que lui va se charger de rétablir. Vous dites qu'il veut reconduire l'ordre nouveau.
Voilà. L'ordre nouveau, c'est lui qui se charge de tenir le cadre qui s'est effondré. Or, on parle de la construction européenne. Mmh. Quand on parle de construction européenne, on s'aperçoit bien que le cadre national se modifie progressivement, lentement mais sûrement, au détriment de ce qu'était la France, et avec un gain au niveau d'une autre structure politique. Ça peut faire peur à un certain nombre de gens. Et Jean-Marie Le Pen, il a été au service de la peur de ces gens-là. Et ce n'est pas fini. Et donc, ce n'est pas fini.
Quand vous dites ce n'est pas fini, vous faites allusion au populisme, comme on dit, en tout cas aux droites extrêmes, au nationalisme, disons, qui s'inscrit dans cet entre-deux cadres, on peut exploiter toutes les peurs.
Oui, à ceci près que le père Jean-Marie Le Pen avait besoin de nommer et d'expliciter des peurs qui n'étaient pas forcément explicite. Alors que la fille, elle a plus besoin de faire ça.
Vous voulez dire qu'il insultait, il était expressément antisémite, anti-immigré, anti...
Il était provocant, il cassait les tabous, il était transgressif, etc. La fille, elle a plus besoin de faire ça. Les discours collectifs disent qu'on a raison d'avoir peur. Donc, pas seulement le registre de la transformation nationale, mais dans tous les registres.
Et donc, vous dites que...
Donc, elle a plus besoin d'être transgressive, elle ramasse.
Elle a juste besoin d'invoquer un autoritarisme.
L'autoritarisme
comme réponse aux peurs non maîtrisées qui circulent partout.
Et puis, une utopie de retour à un État-nation ethniquement pur, comme si ça pouvait exister. Enfin, ça n'a jamais existé. Mais en attendant, le discours peut rassurer... Les gens disent, bah oui, le grand remplacement, faut pas exagérer quand même, s'il pouvait être que petit.
Bon. Alors, donc il y a quand même des gens qui agitent les peurs des autres, c'est important de pouvoir aussi critiquer leur discours, c'est aussi peut-être le rôle que peuvent s'assigner les psychanalystes et les intellectuels, mais vous-même, Ali Magoudi, donc en l'an 2000 déjà, avec Jérôme Monod, qui était, si je ne me trompe pas, un conseiller de Jacques Chirac, vous avez écrit un manifeste pour une Europe souveraine. Est-ce que c'était pour dire, finalement, la souveraineté de l'Europe, le fait qu'elle ait une puissance, est la seule réponse aux peurs qu'il agite. Si on construit une Europe, mais qu'on veut la moins puissante possible, finalement, on est dans la contradiction.
Vous êtes philosophe et vous êtes...
J'enseigne, en tout cas, la philosophie.
Et vous savez ce que c'est que la philosophie politique. Il vous a pas échappé que l'Europe est un substantif qui n'existe pas dans les traités européens. Il n'y a que de l'adjectif. Européen. Le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen. Il n'y a pas d'Europe.
L'Union européenne, effectivement.
Il n'y a pas le mot.
Nous parlons d'Europe, mais ça n'est qu'un adjectif.
Ce n'est qu'un adjectif. Donc on a mis, avec Germano, on a mis le doigt là-dessus. On a dit, qu'est-ce qui se passe? L'ensemble géopolitique européen est un ensemble qui est... un truc bâtard, c'est ni une république, ni une monarchie. Une union de monarchie, on sait ce que c'est.
Une union de monarchie, ça peut être...
C'est un empire.
Un empire.
Une union de république, c'est une... Comme les États-Unis, c'est une fédération de républiques. Comment vous appelez une union de monarchie et de république? Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de concept de philosophie politique pour le définir.
Est-ce que ça rejoint l'objection célèbre de Henry Kissinger sur l'Europe, qui disait l'Europe, quel numéro de téléphone? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut l'incarner pour qu'elle protège? L'incarner, alors, la question du substantif est sûrement très importante. Vous qui êtes psychanalyste et vous dites que le langage est crucial. Nous disons tous l'Europe, précisément parce qu'on a besoin de substance européenne, de substantiver l'Europe.
Ben, on en a besoin et personne ne le fournit.
Ça reste une fiction, vous voulez dire, pour l'instant.
Quand on a écrit le livre avec Jérôme Monod, j'étais avec Jérôme Monod pour écrire le discours de Jacques Chirac au Bundestag, son premier discours pour l'Allemagne. Donc Jacques Chirac arrive, fait le discours qui avait été écrit. Lui, il n'était pas très très partant, mais son conseiller politique l'était beaucoup plus. Et nous écrivons qu'il faut une constitution européenne.
Donc là, on est en quelle année, Ali Magoudi? On 2001, est en année 2000, justement. D'accord.
Ouais. 2002, la réélection de Chirac.
Ouais.
2002. Devant le Parlement allemand.
Donc il l'a dit.
Il a fait la proposition, etc. Deux ans après, on a un traité intergouvernemental de plus de plusieurs centaines de pages. Parce que personne n'est capable d'énoncer qu'il y a un bug en termes de philosophie politique sur la construction européenne. Parce que, au nom de quoi les hommes politiques parlent-ils? Ils ne parlent pas de la même façon quand ils parlent au nom d'une royauté et quand ils parlent au nom d'une république.
Alors, est-ce que vous croyez, Ali Magoudi, c'est une vraie question en effet de philosophie politique, et on est sûrement au cœur d'un des problèmes de l'inconscient européen, est-ce que vous croyez que ça n'est pas quand même en train d'émerger? Et j'allais dire sous la force des problèmes. Je prends par exemple, mais peut-être que vous allez me dire que c'est justement le symptôme d'un mal très grave, la question des réfugiés, que certains appellent les migrants, les questions de la géopolitique internationale avec la Russie et les États-Unis et autour. Est-ce que vous ne croyez pas que l'Europe, contrainte et forcée par les circonstances, est en train néanmoins, même dans la polémique, de s'unifier politiquement et de répondre à votre interrogation?
Je pense que l'Europe a pu avancer uniquement parce qu'elle a mis cette question sous le tapis.
Et que, quelle question? La question,
la question de au nom de quoi, d'un point de vue politique et inconscient, on agit et on fait les lois.
Finalement, qui sommes-nous collectivement pour
qui
ça?
Qui sommes-nous collectivement et est-ce qu'il y a du un qui nous unit? Et cette question a été mise sous le tapis.
Et pour vous, elle est encore sous le tapis aujourd'hui en 2019.
Elle est toujours sous le tapis.
Il y aura des élections européennes en 2019. Vous pensez
on va encore parler économie et on va pas parler philosophie politique. Ça, je peux vous l'assurer.
Quand même, il y a aujourd'hui des pro-européens, des anti-européens. Oui. Bien sûr, ça
oui,
reste.
Mais quand il y a cette opposition entre fédéralistes et union d'États. Les fédéralistes, ils n'ont jamais soulevé la contradiction d'unir des entités géopolitiques hétérogènes. Pour eux, il n'y a pas de problème que sur une des faces d'une pièce européenne, il y ait la reine du Danemark et les pièces françaises, il y ait l'arbre de la liberté. Ils ne voient pas le problème.
Mais est-ce que, alors, certains diront, Ali Magoudi, que c'est une vision française de l'Europe, ce que vous venez d'exprimer. Qu'au début, on parlait de la tension entre, je dirais, le scénario républicain, je suis français de manière universelle, et d'un autre côté, chacun a son scénario individuel avec son histoire. Bon. Donc, est-ce que la façon dont vous présentez l'Europe, qui me semble très forte dans sa puissance aussi de diagnostic finalement, est-ce qu'elle n'est pas quand même un peu le scénario français transposé? C'est-à-dire, je voudrais pouvoir dire, je suis un citoyen européen, et puis en même temps, je suis français, je suis musulman, je suis chrétien, je suis juif, etc. Donc articuler de nouveau le scénario européen avec tous les autres. Et là, vous dites, ce scénario est une fiction pour l'instant.
Mais on va prendre un pays que je connais bien, la Pologne.
Oui, puisque votre mère est...
Puisque ma mère est polonaise. Et que ma langue maternelle est le polonais. Donc je prends ce pays est aujourd'hui dans une crispation identitaire. Maximum,
majeur,
avec un retour du nationalisme porté par les franges les plus extrêmes du catholicisme. Je pense que cette tendance nationaliste diminuerait beaucoup si on mettait les questions géopolitiques sur la table au lieu de les mettre sous le tapis. Parce que quand on les met sous le tapis, les Polonais pensent qu'on veut leur faire intégrer un système géopolitique dont ils ne veulent pas.
Alors qu'est-ce que vous appelez les questions géopolitiques qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui?
Que la Pologne n'est pas la France.
Et qu'elle n'a pas la même histoire. Et
qu'elle n'a pas la même histoire, qu'elle n'a pas la même...
Les mêmes intérêts, forcément.
Les mêmes intérêts, qu'elle est différente. Et dire que cette différence n'empêche pas l'union.
Alors c'est ça l'enjeu, Ali Magoudi, parce que d'un côté vous dites qu'il faut que l'Europe existe au substantif, qu'on soit tous européens, et d'un autre côté vous dites qu'il faut que chaque pays se voit intégrer son scénario. C'est toute la tension de l'Europe aujourd'hui.
Mais c'est la tension qui existe en France.
Tout à fait. Bon,
les Français sont français, ils sont dès qu'on on réduit qu'on augmente le grossissement sur la France, on s'aperçoit que il y a des zones différentes, des gens différents, des intérêts différents, ça les empêche pas d'être français.
Donc on retrouve votre idée d'articuler des scénarios, Ali Magoudi, je voudrais vous redemander, puisque malheureusement on s'approche déjà du terme de cette conversation, dans votre livre N'ayons plus peur, vous centrez tout sur les peurs justement très fortement comme des symptômes. Il faudrait donc articuler des peurs nationales et des peurs européennes. Est-ce que si on structurait des peurs communes, un scénario commun de l'histoire européenne, est-ce que ça structurerait une partie du problème?
Frédéric Vaughan,
avec des réponses, bien sûr. Pas seulement les peurs, mais les réponses.
Je pense que les peurs ont un grand inconvénient. Ah. Quand elles sont méconnues, les peurs entraînent des bugs cognitifs.
Elles nous paralysent.
Elles nous paralysent. Elles paralysent le cerveau. Quand on a un Premier ministre qui a peur des requins,
En France, on a un premier ministre qui a peur des requins. Ouais, ah, j'avoue, vous m'apprenez sa phobie.
J'ai appris ça en lisant la presse. Il a peur des requins. Et donc, il ne va pas se baigner dans la mer.
Même au Havre.
Il paraît.
Ah bon.
Donc, c'est un bug cognitif.
Je ne me permettrai pas, mais vous êtes psychanalyste.
Bon. Le problème avec les peurs, c'est que ça provoque des bugs cognitifs. Donc, ça empêche de penser sereinement l'avenir.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, quand on nous... les gilets jaunes se voient reprocher de penser à la fin du mois, alors que les hommes politiques pensent à la fin du monde.
Oui.
Mais il n'y a pas la fin du monde.
Vous dites que ce sont des scénarios...
Ce sont des scénarios catastrophes qui paralysent l'entendement.
Ouais.
C'est pas bon, les peurs, de ce point de vue-là.
Donc vous ne diriez pas, Ali Magoudi, vous continuez le titre de votre livre, N'ayons plus peur, vous ne diriez pas que l'Europe peut se construire sur des risques et des dangers qu'elle doit maîtriser, mais il doit y avoir une vision positive de l'Europe.
Le titre de mon livre, c'est un pastiche du discours de Jean-Paul II.
Jean-Paul II.
Sur la place Saint-Pierre au moment de sa tronisation.
Vous dites que vous étiez dans un café parisien à la fin des années 70 et que tout à coup quelqu'un vous a dit n'ayons plus peur, n'ayez pas peur.
Et c'était le pape. Donc, n'ayons plus peur. Le pape, il dit n'ayons pas.
N'ayez pas peur.
N'ayez pas peur. Parce que lui, il est au-dessus. Moi, je dis n'ayons plus peur parce que j'ai peur comme les autres.
Oui, parce que le pape, il prêche, et vous êtes psychanalyste, vous discutez, vous parlez.
Je prêche pas. Mais n'ayons plus peur, je m'inclus dans les peurs. J'ai peur, moi aussi, je bug de temps en temps quand je pense à l'avenir. Mais je m'aperçois, en prenant un peu de recul, que ça ne tient pas du tout la route.
Qu'est-ce qui tient la route, alors?
La raison, un discours collectif qui dit que les fictions d'éternité, ce n'est pas terminé, que ça a toujours lieu d'être, et qu'on a besoin de fictions d'éternité.
Donc reconstruire du symbolique,
reconstruire des utopies, l'utopie européenne, bien sûr, ça ne va pas tout résoudre, mais pendant un certain temps, ça va structurer l'entendement des uns et des autres, et au lieu d'avoir peur de tout, on pourra avoir peur de quelque chose de précis.
De précis, de tel ou tel problème, sur le fond d'une confiance en soi, finalement, d'une confiance en tout cas dans un scénario où vous revenez toujours, peut-être ce sera mon dernier mot, malheureusement, mais sur ce mot, justement, l'idée que finalement, il faut construire des scénarios pour éviter la paralysie cognitive et affective, et la peur, mais aussi la haine.
Surtout la haine. C'est-à-dire que les discours collectifs, ils ont cette force, c'est qu'ils protègent de la haine de soi, de la haine de l'autre, ce qui n'a strictement rien d'évident. Regardez le message christique qui clame l'amour à tout bout de champ. S'il n'y avait pas la haine à combattre, on n'aurait pas besoin d'autant de discours sur l'amour.
Donc reconstruisons les discours communs, les discours qui nous permettent de surmonter les peurs.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Ali Magoudi. Matière à penser, c'était notre quatrième rencontre autour de l'inconscient européen avec Ali Magoudi, avec aussi Bruno Mourlan, Catherine Bonnet, Sandrine Chaperon, Nino Lima, Anne-Pascale Desvignes et Frédéric Worms, qui vous donne rendez-vous demain pour notre dernière rencontre de la semaine autour de l'ethnopsychiatrie.